Chapitre 6 Le Dieu des mystiques. Mais le Dieu caché de la révélation ne se fait pas connaître seulement à travers les témoignages qu'il se rend dans son œuvre et dont la théologie spéculative dégage la signification. Il se révèle aussi directement à l'âme. Il est le Dieu sensible au cœur, dont le feu a consumé l'âme de Pascal durant la nuit qu'évoque le mémorial. Mais c'est déjà ce Dieu dont la présence arrachait Adam à lui-même lors de la création de la femme, préfiguration mystérieuse de la création de l'Église. C'est lui qui se manifestait à Moïse dans la ténèbre et le feu du Sinaï. C'est lui dont le poids trop lourd accablait le cœur de Thérèse et de Xavier, de Philippe et de François, de Bernard et de Dominique. C'est le Dieu des saints, et non pas des théologiens. Ou mieux, c'est le Dieu à la fois des théologiens et des saints, mais non pas seulement des théologiens. Mais les théologiens nous expliquent ce qu'est cette expérience des saints. Ils nous disent que la Trinité, en touchant l'âme de sa grâce, l'élève au-dessus d'elle-même et la divinise. Elle la fait participer à l'amour dont Dieu s'aime lui-même et à la connaissance dont il se connaît. Cette ténèbre divine, inaccessible à l'homme charnel, l'homme spirituel est doué de dispositions nouvelles, de sens nouveau, qui le connaturalise à elle et qui lui permettent d'y pénétrer. Ces dispositions nouvelles sont les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit, qui rendent l'âme devenue divine apte à percevoir les choses divines. C'est ce que l'œil n'a point vu ni l'oreille entendu et que Dieu a révélé à ceux qui l'aiment. Et ce témoignage de ceux qui ont ainsi touché Dieu porte en lui une évidence si étonnante qu'il est, même pour ceux qui ne l'ont pas partagé, une des raisons de croire en Dieu. Cette connaissance mystique de Dieu ne relève pas, comme la connaissance théologique, de la démarche de l'intelligence discursive éclairée par la foi et cherchant à comprendre les vérités de la révélation. Elle en diffère d'abord dans son objet, qui est la Trinité, en tant que présente à l'âme. Cette demeure de Dieu dans l'âme se situe dans la séquence des Mirabilia Dei, dans le dessin de l'histoire du salut, dans les grandes œuvres de la Trinité. Elle constitue la réalisation même de ce dessein de Dieu, la source de l'adoption filiale. La connaissance mystique est un aspect de cette vie trinitaire. Elle est la réalisation par l'homme de son être le plus profond, de ce que Dieu a voulu accomplir en le créant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, disait saint Irénée. Il ne s'agit donc aucunement d'une réalité exceptionnelle, mais au contraire de la réalisation par l'homme de son être véritable. Le point de départ de cette saisie mystérieuse de Dieu est donc la venue de la Trinité dans l'âme par le baptême. « Si quelqu'un m'aime, avait dit le Christ, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Et saint Paul revient à plusieurs reprises sur le fait que l'âme baptisée est le temple de l'Esprit-Saint. L'initiative est donc ici entièrement du côté de Dieu. Il ne s'agit pas, comme dans les spiritualités naturelles, d'une saisie par l'âme de sa propre essence par un effort d'intériorisation, mais de la conscience d'une action de la Trinité s'approchant de l'âme et y demeurant de façon stable. Or, c'est dans l'Église que la Trinité demeure, et c'est pourquoi le baptême fait de l'âme la demeure de la Trinité en l'agrégeant à l'Église. La mystique chrétienne plonge dans la vie sacramentelle, dont elle est l'épanouissement. Il faut d'abord montrer comment, sous cet aspect, le baptême se situe dans le dessein de Dieu. Le livre de la Genèse nous décrit les merveilles de la création première, mais les livres prophétiques nous annoncent que Dieu, à la fin des temps, accomplira une création nouvelle. Pour la Bible, la création est un avenir plus encore qu'un passé, et on peut dire que c'est là ce qui la caractérise par rapport aux livres religieux des nations païennes. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Isaïe 65, 17. On remarquera les derniers mots de ce texte. Certes, la première création est une chose admirable, mais la nouvelle création sera plus admirable encore. C'est le mot même de l'offertoire « Mirabiliter condidisti » et mirabilius reformasti. Le soleil qui éclaire cette création est éblouissant, mais l'éclat du soleil de la nouvelle création l'obscurcira. On peut lire encore dans Isaïe 79: Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. La Bible ne rappelle les grandes œuvres de Dieu dans le passé que pour fonder l'espérance d'œuvres plus grandes dans l'avenir. Le paradis n'est pas derrière nous, mais devant nous. L'homme de la Bible, a écrit Jean Hering, n'est pas la princesse envoyée en exil et qui aspire au retour, mais Abraham qui se met en route vers un pays inconnu que Dieu lui montrera. Or, l'affirmation du Nouveau Testament est que cette nouvelle création, annoncée par les prophètes pour la fin des temps, est arrivée avec Jésus. Odiye mecum eris in paradiso. Tout le Nouveau Testament est dans cette odiye. Il est l'affirmation qu'avec Jésus, les temps eschatologiques sont arrivés. Le même verbe qui, à l'origine, a proféré la création première, par qui tout a été fait, c'est lui qui vient en Jésus ressaisir cette création pour la refaire après qu'elle eût été corrompue par le péché. L'incarnation du Verbe est une action cosmique, aussi importante que la création du monde, plus importante même encore qu'elle soit accomplie dans un silence, dans une obscurité profonde. Le Verbe saisit dans l'incarnation la nature humaine et, par la résurrection, la transfigure par les énergies divines qui sont en lui. Mais cette recréation de la nature humaine, accomplie d'abord substantiellement dans le Christ, se continue dans l'Église, et c'est précisément dans le baptême qu'elle s'accomplit. Le Christ l'affirme lui-même à Nicodème, « Si quelqu'un ne naît à nouveau de l'eau et de l'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. » Et saint Paul, dans une formule extraordinaire qui fait écho à Isaïe, « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5:17. Mais la distance d'Isaïe à Paul, c'est que le premier annonçait cette création comme à venir, le second la montre accomplie. C'est saint Paul encore qui marque le parallélisme de cette nouvelle création avec la création première. Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, c'est lui qui a fait luire sa clarté dans nos cœurs, pour que nous fassions briller la connaissance de la gloire de Dieu, laquelle brille sur la face du Christ Jésus. 2 Corinthiens 4:9. Le Christ est le soleil de la nouvelle création, soleil éternellement levant. Oriens est nomen eius. Le baptême que les anciens appelaient illumination, photismos, nous fait passer de la ténèbre de l'ignorance et du péché à la lumière de la grâce et de la gloire. Et l'Église est le lieu où les rayons qui partent de l'humanité glorifiée du Christ ressuscité viennent vivifier notre être pour le rendre capable d'une existence de Fils de Dieu. Mais il y a plus. Nous avons considéré seulement jusqu'ici le baptême dans sa signification d'événement créateur. Or, ce qui caractérise les sacrements, c'est que ce sont des signes efficaces. Ils opèrent ce qu'ils signifient. Il y a une relation par conséquent entre les symboles qu'ils utilisent et les réalités qu'ils accomplissent. Nous avons donc à nous demander en quoi les rites du baptême sont significatifs d'une action créatrice. Or, l'essentiel de ces rites est une effusion d'eau au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous interprétons souvent ce rite au sens d'une simple purification, mais ici encore l'étude de la Bible nous ouvre d'autres horizons. Nous avons vu tout à l'heure que le Christ disait que la régénération devait s'accomplir par l'eau et l'esprit. Ce lien de l'eau et de l'esprit avec la création est un thème biblique central et qui se rattache à la symbolique de l'eau comme principe de fécondité. Le texte capital ici est le second verset de la Genèse, « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». C'est donc des eaux primordiales que l'Esprit, qui est la puissance vivificatrice de Dieu, a fait surgir la création première. De même, c'est des eaux baptismales que l'Esprit fera surgir la nouvelle créature. L'eau primitive a engendré la vie, écrit Tertullien, pour qu'on ne s'étonne pas que dans le baptême, les eaux soient capables de vivifier. Des baptismaux, chapitre 2. Mais ici encore, il faut suivre les étapes du développement qui conduit de la création première issue des eaux à la nouvelle création, dans la piscine baptismale. Et ce développement nous fait passer par les prophètes. Dans un texte capital pour les origines du baptême, Ézéchiel nous parle de l'effusion d'eau et d'esprit qui caractérisera les temps messianiques. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Ézéchiel 36, 25-27. Et effectivement, Ézéchiel nous montre un fleuve d'eau vive jaillissant au cœur du temple futur. Or, cette effusion d'eau et d'esprit, qui est le baptême, le Nouveau Testament nous la montre accomplie. C'est d'abord dans sa perspective que se situe le baptême de Jean. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Les exégètes qui ont cherché le sens du baptême de Jean y voient l'accomplissement de l'action annoncée par les prophètes. C'est là son contexte le plus vraisemblable. Il n'a rien de commun avec les purifications légales du judaïsme, ni avec les bains d'initiation au mystère païen. Mais, nous l'avons remarqué, le baptême de Jean est incomplet. C'est un baptême d'eau, non d'esprit. Il signifie, il n'opère pas. Il est encore un geste prophétique. L'accomplissement de l'action créatrice annoncée par les prophètes, c'est dans le baptême de Jésus que nous la trouvons, où l'esprit descend sur les eaux. Et la référence la plus certaine à cette descente de l'esprit sur les eaux du Jourdain, c'est le verset 2 de la Genèse. Comme l'esprit avait suscité des eaux primordiales la création première, ainsi l'esprit suscite des eaux du Jourdain la nouvelle création qui est celle de l'homme-Dieu. C'est bien ainsi que le comprend saint Ambroise. Je cite « Pourquoi es-tu immergé dans l'eau ? Nous lisons que les eaux produisent les êtres vivants, et les êtres vivants sont nés. Cela s'est fait au début de la création, mais à toi était réservé que l'eau te régénère pour la grâce, comme celle-là a engendré la vie surnaturelle. » Fin de citation. De Sacramentis, chapitre 3, partie 3. C'est dans le baptême du Christ que le baptême chrétien est institué. Et la signification du rite est d'exprimer qu'une création nouvelle surgit des eaux baptismales sous l'action de l'Esprit, comme la première créature des eaux primordiales. Cette symbolique des eaux du baptême comme principe créateur est donc solidement fondée en exégèse. C'est celle aussi de toute la tradition liturgique. Qu'on relise les prières de bénédiction des eaux dans la nuit pascale. Elles prennent toute leur plénitude après ce que nous avons dit. Ô Dieu dont l'Esprit était porté sur les eaux aux origines du monde, pour que déjà alors la nature des eaux conçoive une vertu sanctificatrice, toi qui fécondes par un mystérieux mélange de ta puissance cette eau préparée pour régénérer les hommes, afin qu'une race céleste en émerge, née à nouveau à une nouvelle création, etc. Ainsi le baptême signifie et opère une nouvelle création. Or cette création est celle d'une vie nouvelle qui est celle de l'Esprit, vie autre que la vie naturelle, vie proprement divine. Cette vie de l'Esprit nous configure au Christ, selon le mot de saint Paul, et fait de nous ses membres. Et elle nous rend ainsi enfants du Père, par la communication de la grâce de l'adoption filiale. C'est donc une participation à la vie des trois personnes que communique le baptême donné au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Cette signification du baptême, comme participation à la vie de la Trinité, est fréquemment indiquée par les Pères. Tantôt l'accent est mis sur l'union au Christ, je cite, « Plongé dans le Christ, écrit Cyril de Jérusalem, et ayant revêtu le Christ, vous êtes devenu conforme sumorphoi au Christ. C'est pourquoi, devenu participant du Christ, vous êtes à bon droit appelé chrétien. » Tantôt l'eau du baptême apparaît comme le sacrement de l'Esprit. Je cite, « L'Esprit de Dieu, invisible à toute intelligence, plonge, baptiseille, en lui-même et régénère à la fois notre corps et notre âme avec l'assistance des anges. » Fin de citation. Parfois aussi, c'est la Trinité tout entière qui nous est montrée, saisissant l'homme dans le baptême et se communiquant à lui. Ainsi saint Irénée écrit « Quand nous sommes régénérés par le baptême au nom des trois personnes, nous sommes enrichis dans cette seconde naissance des liens qui sont en Dieu le Père, par le moyen de son Fils, avec le Saint-Esprit. Car ceux qui sont baptisés reçoivent l'Esprit de Dieu qui les donne au Fils, et le Fils les prend et les offre à son Père. et le Père leur communique l'incorruptibilité. Fin de citation. Origène met en relation les trois immersions baptismales, les trois jours passés par le Christ dans le tombeau et les trois personnes de la Trinité, rassemblant ainsi le double symbolisme des trois immersions. Je cite « Le Christ est ressuscité des morts le troisième jour pour procurer aux sauvés d'être baptisés en esprit, en âme et en corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont les trois jours subsistant ensemble éternellement pour ceux qui sont par eux fils de lumière. » Fin de citation. Car, je cite, « Le Père est lumière, et dans sa lumière, qui est le Fils, nous voyons l'Esprit-Saint. » Fin de citation.